Micro-Rebelle Reportage, c'est le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro-Rebelle Reportage, à écouter sur microrebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités, vos suggestions, vos idées, toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Micro-Rebelle Hebdo, bienvenue pour ce nouveau reportage. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la rentrée des classes et nous avons tenu à inviter une enseignante et un conseiller pédagogique pour nous éclairer en quelque sorte sur cette rentrée scolaire et puis d'une manière un peu plus générale sur l'école, les enjeux qui la traversent et puis tout simplement aussi pour connaître un petit peu l'activité d'enseignant, l'activité scolaire, l'activité de conseiller pédagogique. On parlera aussi des parents, je pense. Alors, on est avec Claire et Xavier. Claire, je vais te laisser te présenter.
Oui, donc depuis 5 ans, j'étais directrice d'une école maternelle. Et à la rentrée, suite à une restructuration du groupe scolaire, j'aurai en charge en plus l'élémentaire. Donc ce qui fait une directrice de 9 classes d'un groupe scolaire de la toute petite section au CM2.
Alors, est-ce que tu peux nous dire où se trouve cette école, les classes qu'il y a, est-ce qu'il y a des particularités?
Donc c'est l'école Adrienne Berthelot de Liévin, donc classée en REP, donc c'est un milieu...
Alors REP, ça veut dire ?
Réseau d'éducation prioritaire. Donc où on a des enfants en grandes difficultés scolaires et sociales, et également des enfants dont les deux parents travaillent, ont des situations cadres, on a vraiment les deux extrêmes.
Donc, les rapports aux classes maintenant, alors.
Alors, à la rentrée, il y aura une classe de tout petit-petit, une classe de petit-moyen et deux classes de moyen-grand.
Alors, les tout petits, c'est des gamins alors, de 2 ans.
Alors, oui, on a des enfants qui auront 2 ans le 2 septembre. J'ai vu mes listes là dernièrement et qui seront là certainement le 4 septembre. On les fait rentrer jusqu'en janvier, les tout petits. Suivant leur maturité, voir s'ils sont vraiment prêts pour affronter le monde scolaire et la collectivité. Et donc dans cette classe de tout petit-petit, c'est vraiment que des premières scolarisations. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui n'arrivent à l'école qu'à 3 ans. Pour diverses raisons, soit ils n'étaient pas prêts, soit un choix des parents... ensuite, donc les petits moyens. Donc dans les petits moyens, ils ont tous fait 1 an d'école. Et ensuite, 2 classes de moyens grands. En élémentaire, cette année, il y aura une classe de CP, une classe de CP-CE1, une classe de CE1-CE2, une classe de CE2-CM1 et une classe de CM1-CM2.
Alors, c'est toutes ces classes avec... deux niveaux en quelque sorte. Hein. Comment ça se passe du point de vue de l'enseignant, du point de vue de l'élève aussi?
Donc moi c'est une première hein, pour l'élémentaire. Donc eux, leur constitution de classe, ils n'ont pas vraiment eu le choix pour se répartir les élèves. Ils ont voulu aussi privilégier les CP et garantir quand même des petits effectifs, hein, parce que c'est le grand saut pour eux de passer de la maternelle au CP, et l'apprentissage de la lecture demande beaucoup d'attention de la part de l'enseignant. Donc je peux plus approfondir au niveau de la maternelle, où c'est un choix d'équipe de faire des cours doubles, car en maternelle, la maturité de l'enfant est très importante dans les apprentissages. On peut avoir des enfants donc, sur une même année civile qui rentrent et qui sont du début janvier, et d'autres qui sont du 31 décembre, et ils sont dans la même classe. Et à cet âge-là, 6 mois, c'est énorme dans leur maturité. Donc les cours doubles permettent à chaque élève de trouver sa place et d'avoir... Donc soit il est plus rapide dans les apprentissages, donc il peut bénéficier du cours au-dessus. S'il est celui qui, par exemple, chez les grands et qui est un peu plus lent à assimiler, il peut bénéficier des cours des moyens tout en restant chez les grands. Donc, je ne sais pas si j'ai été bien claire. De même chez les moyens, donc les moyens de fin d'année, des fois, à quelques jours près, ils seraient chez les petits. Donc, ils ont besoin encore de repos l'après-midi, ils sont plus fatigables, et le rythme des petits moyens est plus adapté pour eux. Ils ont chacun, ça je tiens à le dire, celui qui est chez les moyens, il a le programme des moyens, celui qui est chez les grands, il a le programme des grands. Et dans la constitution des classes, on essaye de mettre le niveau le plus élevé, chez les moyens grands par exemple, ou même chez les petits moyens, le cours le plus fort, donc les grands ou les moyens, ils sont en surnombre par rapport au cours le plus bas, pour que ceux qui soient au niveau inférieur soient tirés vers le haut et pas l'inverse. Et un autre élément aussi qui nous pousse à faire ces cours doubles, c'est de séparer des enfants, on va dire, d'incompatibilité d'humeur. Parce qu'on a des cohortes qui sont explosives, donc ça permet, comme là les moyens il y en a dans 3 classes, ça permet de séparer vraiment les noyaux durs.
Et au niveau boulot pour l'enseignant, c'est... J'imagine un peu plus compliqué.
Alors, en maternelle, je n'ai pas l'expérience de l'élémentaire, qui peut-être c'est plus compliqué, mais ça sera mon challenge en fait de cette rentrée, c'est de faire admettre à l'élémentaire que le cours doux peut être un atout. Parce que de toute façon, sur un même niveau, on a des enfants différents, donc il faut s'adapter à ces enfants-là, il faut accepter de les prendre là où ils sont arrivés, et de différencier. Et donc, si on a des cours doubles, en fait, ce n'est que différencier. On fait la même chose, mais en différenciant. Par exemple, si je prends la numération, si on doit amener les grands jusque 10, et les moyens, on va dire, jusque 5, ils peuvent faire le même travail, mais en adaptant. Donc le grand qui a plus de mal à arriver jusque 10, on fera un intermédiaire avec les moyens, et inversement, il y a des moyens qui pourront aller au-delà, ils vont pouvoir se retrouver avec le travail de grand. Mais on fait la notion est la même, donc après on adapte les supports et la manière d'aborder la compétence.
Très bien. Alors toi, à titre personnel, tu as quelle classe, quel type de classe ?
Alors cette année, j'aurai des petits moyens.
Et alors, un directeur ou une directrice d'école a ce qu'on appelle des décharges. Tu peux en dire quelques mots ?
Oui, donc cette année, j'aurai une journée et demie, où là, je suis dans le bureau, et je m'occupe de tout ce qui est administratif, rencontre avec les familles, les partenaires comme la mairie ou les centres sociaux, le centre de loisirs. C'est ces jours-là où je mets mes réunions les équipes éducatives. Donc quand on rencontre une difficulté avec un élève, que ce soit d'ordre comportemental ou au niveau des apprentissages, donc on fait ce qu'on appelle une équipe éducative. Après, ça me permet aussi de voir aussi mes collègues. Hein, c'est un moment privilégié où je peux me détacher et voir un peu dans les classes. Avec également ma hiérarchie, hein, quand je dois aller à l'inspection. C'est ces moments-là que j'y vais. Et pendant que je suis donc dans ma classe, je suis dans ma classe. Donc je me suis interdit de répondre au téléphone, par exemple, sauf évidemment urgence. Mais quand je suis dans ma classe, j'ai vraiment mon costume de maîtresse. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je ne m'habillais pas pareil quand j'allais en classe et quand j'étais dans mon bureau. Mais inconsciemment, enfin, c'est vraiment inconsciemment. Mais voilà, et donc quand je suis directrice, hein, je peux dire ça comme ça, je me mets à la porte de l'école et j'accueille les familles. Toutes les familles. Chose que je ne fais pas quand je suis dans ma classe. Dans ma classe, j'accueille mes élèves.
Très bien, moi, je crois qu'on aura beaucoup de sujets sur lesquels revenir, hein, suite à ce que tu viens de dire. Xavier.
Oui, bonjour.
Bonjour. Je te laisse également te présenter et puis présenter aussi cette fonction de conseiller pédagogique.
Donc voilà, ben, moi je suis conseiller pédagogique. En fait, ça consiste à être l'adjoint d'une inspectrice et je m'occupe d'une circonscription, celle de Liévin, qui concerne en fait toutes les écoles élémentaires et maternelles de Liévin. Quelques communes environnantes, c'est-à-dire nous avons Angres, Souchez, Givenchy, Carency, Ablain-Saint-Nazaire et la plus éloignée, c'est Villers-aux-Bois. Donc voilà.
Alors, déjà peut-être ton parcours, d'une manière peut-être générale ou raccourcie, hein, comme tu le souhaites. Et puis ensuite, être adjoint de l'inspectrice, ça veut dire quoi ?
Alors mon parcours, bon, un petit peu particulier, issu de l'entreprise, concours école normale, école d'application. Donc j'ai été en école d'application, donc j'ai un CAFIPEM, c'est-à-dire un certificat qui fait que je suis maître formateur. Donc j'ai longuement été en école d'application, où j'ai reçu en fait les jeunes enseignants dans ma classe. Et depuis, c'est ma septième rentrée, je suis conseiller pédagogique, c'est-à-dire je reste professeur des écoles, détaché de classe, je n'ai pas de classe, et en fait, ma mission, c'est de m'occuper de la formation des jeunes enseignants, actuellement les fonctionnaires stagiaires, là j'ai reçu nos 12 fonctionnaires stagiaires de la journée qui vont être sur notre circonscription, de former aussi les collègues qui sont en poste, animation pédagogique, de suivre les dossiers pédagogiques que me propose Madame l'inspectrice, d'être en articulation avec les municipalités sur certains dossiers, avec le suivi de certains élèves sur des situations un petit peu particulières. Je fais du conseil auprès des équipes. Ils me sollicitent, je passe les voir, j'aide les plus jeunes parfois et les moins jeunes sur des questions pédagogiques. Donc c'est assez varié en fait, hein.
Alors, à Micro-Rebelle, on a déjà eu l'occasion d'avoir des échanges avec une conseillère pédagogique en art plastique. Ça veut dire que tu as une spécialisation de ce type-là ?
Alors justement, je suis généraliste, c'est-à-dire que je n'ai pas de spécialisation, je suis adjoint de l'IEN, et donc je m'occupe absolument de tous les sujets, en sachant que quand il y a des dossiers qui affairent les arts visuels, l'éducation musicale ou l'EPS, je fais le relais auprès de mes collègues qui sont spécialisés.
Alors typiquement dans une circonscription comme celle que tu viens de décrire, celle de Liévin et les communes alentours, donc il y a donc une inspectrice et combien de conseillers pédagogiques généralistes et combien de conseillers pédagogiques spécialisés ?
Alors sur Liévin, on a ma personne, conseiller pédagogique généraliste, on a une conseillère pédagogique avec une mission EPS et après on a la conseillère pédagogique en art visuel qui est sur plusieurs circonscriptions et la même chose pour le conseiller pédagogique en éducation musicale.
Donc les arts visuels, c'est ce qui est vidéo, photo,
c'est des choses. Alors c'est tout ce qui est art de visuel, oui, art plastique, art visuel, tout ce qui... Voilà.
D'accord. Très bien. Alors peut-être toute dernière question pour la clarifier. Donc tu es conseiller pédagogique sur Liévin, Claire est enseignante sur Liévin. quel est votre lien? Tu es son supérieur hiérarchique? Comment ça se passe?
Et non, je ne suis pas supérieur hiérarchique. Je suis en fait collègue hein, avec des chargés de classe, comme je le disais. Donc, je suis professeur des écoles. Donc, il n'y a pas lien de hiérarchie. La seule hiérarchie qu'il y ait en élémentaire et en maternelle, c'est l'inspectrice, hein, qui est vraiment la seule personne qui soit voilà, au-dessus de tous les professeurs des écoles, dont moi.
Et donc, typiquement, on parle régulièrement de... L'inspectrice va inspecter. Est-ce que toi, tu es aussi amené à faire des inspections comment...
Non, parce que moi, je suis dans le rôle du conseil, c'est-à-dire que j'accompagne, je suis dans le compagnonnage un peu, pour les plus jeunes, pour ceux qui me sollicitent sur des projets particuliers, par exemple avec Claire, sur des projets de sciences ou d'autres domaines. Elle me demande un petit peu de réfléchir, d'amener ma touche pédagogique par rapport à, on va dire, les nouvelles données scientifiques. Je ne suis pas dans le rôle d'inspection, justement. Je suis vraiment le collègue. Bien évidemment, il arrive parfois que sur certains dossiers, j'accompagne l'inspectrice pour, sur des dossiers un petit peu plus délicats, mais c'est très exceptionnel. C'est pas le rôle du conseil pédagogique d'être dans ce domaine.
Très bien, ben, je te remercie. Je pense que ça clarifie pas mal de choses pour nos auditrices et nos auditeurs. Alors donc, cette émission, elle est... enregistré quelques jours avant la rentrée des classes, hein, une rentrée en deux temps, il y a la rentrée des élèves et la rentrée des enseignants un petit peu en amont. Alors, Claire et Xavier, qu'est-ce qui se passe pour vous en cette période de préparation de la rentrée des classes? Bon, toi Claire, j'imagine que, puisque tu as des nouvelles responsabilités en quelque sorte, il doit y avoir pas mal de choses qui te concernent.
Oui, donc dans un premier temps, on se réinstalle au niveau matériel, hein, pendant l'été, c'est le grand nettoyage, donc il faut réaménager sa classe. Bien souvent, d'une année à l'autre, on bouge quelques meubles, on réfléchit à notre agencement. Donc là, moi, en tant que directrice, ma préoccupation, c'est déjà de voir faire le point sur mes listes d'élèves, sur mes classes. Également de faire tout ce qui est planning de réunion parce qu'on a quand même 108 heures moins les 18 heures d'animation pédagogique à placer sur l'année, les plannings de services au niveau des récréations, voir un petit peu les projets que je vais pouvoir proposer à mon équipe hein, parce que mon rôle c'est avant tout de piloter hein, d'essayer de faire adhérer l'équipe sur des projets communs pour pouvoir travailler ensemble, donc de tout petit CM2. Voir également si les travaux qui devaient être effectués pendant les vacances, comme les peintures ou une chaudière qui était défectueuse, donc ont bien été réalisés. Et sinon, prendre contact avec les services techniques pour que ce le soit avant le jour J. Puis bon, également préparer ma classe parce que bon, une journée de pré-rentrée ça passe très vite et comme de nombre de mes collègues, on y va toujours un peu avant.
Justement, c'est de quel ordre enfin, pour un enseignant ou pour un directeur ou une
directrice? Là, j'ai déjà vu sur les 9, 7 collègues. On se croise bon, le matin. L'après-midi, j'en vois d'autres. Bon, comme je n'habite pas très loin, c'est vrai que c'est tentant d'aller travailler dans l'école. Ça évite de transporter le matériel. Mais tout le monde vient prendre la température tout doucement. Quoi.
Prendre connaissance de ces listes, c'est ça?
Oui, bon, ça, déjà au mois de juillet, hein, ils partent avec quand même une bonne ébauche de leur liste. Mais ils se réinstallent tout doucement.
J'ai l'impression que quand on dit que les enseignants sont en vacances, c'est pas si vrai que ça, quand même.
Quand arrive le 15 août, souvent, le compte à rebours, il se met en route. Même au 1er août, c'est psychologique, mais on pense déjà, en se replongeant dans les lectures, ça serait bien. Voilà, mais oui, en fait, on pense toujours, même en vacances... on ramasse, j'étais à la plage, j'ai ramassé des galets. Je me disais, pour faire une activité, numération, de tri, c'est bon. Ça, c'est pénible pour les conjoints.
Sauf s'ils sont enseignants.
Non, pourtant, il est enseignant également, mais bon, il ne comprend pas toujours.
Et donc toi, Xavier, tu accueilles les petits nouveaux, en quelque sorte.
Ah ben, c'était ce qui s'est fait aujourd'hui, hein, justement. Les jeunes qui ont eu le concours, là, ils ont su leur nomination au mois de juillet, en fait, et ce sont des fonctionnaires stagiaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir charge de classe 12 heures par semaine. Donc, bien évidemment, on a eu connaissance de leur nom assez rapidement par rapport au poste qui leur était réservé dans la circonscription. On savait déjà dès le mois de juillet. Là, aujourd'hui, c'était vraiment l'accueil un peu pour les rassurer, surtout donner quelques pistes de réflexion, présenter la circonscription, avoir des données tout à fait habituelles sur comment les communiquer avec eux, le fonctionnement, enfin l'éthique, enfin. Tout un ensemble de choses sur lesquelles on va revenir au cours de l'année, hein, puisqu'on va les suivre d'assez près, hein, pendant un certain nombre de visites. Donc je dirais que c'est l'après-pré-rentrée pour moi, hein, aujourd'hui. Hein, c'est vraiment là où on est en train de voir un peu la tournure de ce qui va être une bonne part de mon travail, c'est-à-dire d'accompagner ces jeunes sur le terrain. Hein.
Par exemple, pour avoir un ordre de grandeur, là, tu accueillais une douzaine de jeunes débutants, en quelque sorte,
oui.
sur une circonscription comme celle de Liévin, il y a combien de classes ?
En fait, il y a 280 enseignants, un peu plus de 280 enseignants, hein, en sachant que certains n'ont pas charge de classe, puisque dedans on compte des gens qui sont des remplaçants ou des temps partiels. Hein. Donc 12, c'est vraiment le plus petit chiffre qu'on ait eu depuis, je suis en circonscription depuis 7 ans. On a quand même eu l'an dernier, si j'ai bonne mémoire, 17 ou 18 jeunes débutants. Donc on a toujours accueilli sur Liévin un grand nombre de gens qui ont fait leur classe, si on peut appeler ça ainsi. Et donc je dirais que c'est un petit peu plus, un peu plus facile cette année. Hein. Donc ma collègue et moi, on va avoir chacun 6 personnes à suivre, de la maternelle, moyenne section, jusque CM1 ou CM2, je ne sais plus.
Voilà. Puis ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui partent.
Oui, ça reste une circonscription assez stable. Hein. Bon, bien évidemment, il y a des. Dernière période, on sait qui part et on sait qui arrive. Et il n'y a pas de grande. On ne peut pas dire que ce soit une circonscription où les gens quittent facilement. Il y a des stabilités. On a quand même pas mal de collègues qui restent. À plusieurs décennies en poste avec nous. Ouais. Et bien évidemment, à chaque fois, je blague avec les collègues en disant, les jeunes collègues, en leur disant, il y a de fortes chances que l'année prochaine, vous soyez en poste dans notre circonscription. Et ça se vérifie, on a toujours quelques-uns qui sont en poste et qui y restent.
Peut-être, est-ce que tu peux rappeler ces jeunes qui arrivent ? Tu parlais de concours. Ils ont fait quel type d'études ? Rappelez un petit peu qu'est-ce qu'il faut pour devenir
enseignant. Il faut quand même un niveau Bac plus 5, hein, c'est-à-dire voilà, ils sont au niveau Master, Master 1, Master 2 pour certains. Ils ont passé des écrits, hein, en français, en mathématiques, une première sélection, et après il y a des oraux avec différents domaines sur lesquels ils vont être des jurys qui vont évaluer leurs compétences un petit peu à tenir la classe, déjà ce potentiel, même si on ne voit pas toujours exactement, mais un peu la connaissance du système éducatif, hein, voir un petit peu s'ils voient un peu la mission qui les attend. Hein. Donc et les résultats du concours, ce sont fin juin, quoi, en fait. Hein. Donc nous sommes une académie qui accueillons énormément de candidats. Donc, c'est une très grosse machine qui se met en place, arrivée... le mois de mai.
Une académie, c'est quoi ? C'est les Hauts-de-France ? C'est le Nord-Pas-de-Calais ?
Alors justement, on a la spécificité d'avoir, mixé deux académies, hein, celle qui était de la Picardie et celle du Nord-Pas-de-Calais. Et les deux entités ont été conservées, hein, celle de l'Académie de Lille et l'Académie d'Amiens.
D'accord. Hein,
en sachant qu'on est une seule région désormais.
Très bien. Peut-être une dernière question. Quand on évoque la rentrée, on se dit toujours, est-ce qu'il y aura des classes sans maître ? Est-ce qu'il y a des classes qui sont supprimées ? Quelle est la photo sur Liévin ?
Mais c'est très bien équilibré, hein, on n'a aucun souci. Alors c'est très anticipé, hein, dès le mois de mars, on est vraiment affairé à savoir que tout se passe bien. Je dirais même que la rentrée, elle est faite dès fin juin, sauf surprise, bien souvent très positive. On a un maître devant chaque classe d'élèves on n'a jamais eu le cas depuis que je suis ici de ces choses-là. Il y a la marge en termes de fermeture. Les choses ont été anticipées, il n'y a pas eu de surprise, donc la rentrée va se faire de façon tout à fait organisée, sans surprise.
Très bien. Alors peut-être juste une dernière question sur cette rentrée. On évoque de nombreux changements qui sont aussi issus des élections présidentielles et législatives. Quelle est la teneur de ces changements?
Bah là, on est sur les attentes ministérielles, hein, les directives. Alors, il y a déjà des choses qui ont été données au mois de juin, notamment en ce qui concerne les REP+. Nous ne sommes pas en REP+, sur Liévin.
Tu peux préciser.
Donc REP+, c'est-à-dire qu'il y a des moyens encore supplémentaires, hein, qui sont donnés. Donc réseau d'éducation prioritaire. Une bonne partie des écoles de Liévin sont en réseau d'éducation prioritaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moyens supplémentaires.
Donc, c'est le cas de l'école de Claire, typiquement.
Donc, l'école de Claire, éventuellement, voilà, fait partie de la REP. Hein.
Oui.
Donc, à juste titre. Et REP+, il y a des moyens de formation qui sont donnés en plus, 9 demi-journées, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y a quelques dispositifs supplémentaires. Et donc, nous ne sommes pas dans les dispositifs des CP dédoublés en ce qui concerne l'IEV, hein, pour l'instant. Voilà. Après, les grandes directives, elles sont en cours de divulgation, donc on attend les informations. Il n'y aura pas de grandes surprises par rapport à... Hein, on est dans la continuité, puisque les choses ont été annoncées dès le mois de juin. Quoi, hein.
D'accord, très bien. Peut-être juste à toi, Claire, et à toi, Xavier. Donc, Claire évoquait... si j'ai bien compris, Clara, le fait que dans ton rôle de directrice maternelle élémentaire, tu avais quand même comme mission le fait d'impulser des projets communs. Comment ça se passe? C'est quel type de projet? Parce que on a aussi souvent l'idée de l'enseignant qui est maître de sa classe. Alors là, tu parles de projets communs. C'est...
Oui. Alors, le premier projet commun qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est dans le cadre de la liaison grande section CP. Donc même là, quand les écoles ne sont pas fusionnées, ça existe. Donc c'est un projet donc, qui est mené par des maîtresses de grand et des maîtresses ou des maîtres. Hein, mais bon, je dis maîtresses parce qu'il y a beaucoup de femmes dans notre métier. Et avec l'enseignant donc du CEP, donc qui permet donc comme ça de au maître de CEP de voir ses futurs élèves et à la maîtresse ou au maître des grands de l'aider à découvrir ses futurs nouveaux élèves. Et donc ça aussi pour avantage de dédramatiser ce passage maternel élémentaire pour les enfants. Hein, parce que pour eux, c'est le grand saut et il y a énormément de différences entre les deux écoles. Hein, en maternelle, ils se déplacent un peu librement dans la classe. Qu'en élémentaire, ils se retrouvent plus longtemps assis derrière une table à écouter leur enseignant. Chez nous, nous faisons ce qu'on appelle le rallye lecture. Hein, donc, dès janvier... on choisit un thème, donc ça peut être la différence, ou ça peut être la peur. L'année dernière, oui, donc c'était sur la peur. Donc on choisit 6 albums donc qui portent sur le même thème. Donc les grands travaillent dessus, les CP travaillent dessus. Et puis à un moment donné... il y a une rencontre où on mélange donc les élèves de grand et de CP, hein, on fait des équipes. Et on a imaginé donc des jeux, hein, comme un rallye, un peu comme Fort Boyard. Et les jeux ont lieu dans des lieux stratégiques des deux écoles. Et donc souvent ce sont donc les CP donc qui viennent guider les grands dans les locaux de l'élémentaire, comme la bibliothèque, la salle de classe, la salle de sport, la cour de récréation, la cantine. Et dans ces lieux stratégiques donc se déroulent des jeux, ils marquent des points, les jeux sont prétexte. Hein. Et ensuite ça se termine par un grand goûter, je dirais le grand banquet d'Obélix et Astérix, où on fait la fête et puis tout est mélangé. Ça permet également aussi aux grandes sections de rencontrer leurs futurs enseignants. Donc ça c'est un projet, hein, mais pour faire ces jeux autour de ces albums, il faut connaître les albums, donc ça se travaille sur du long terme. Au sein de notre école, on a aussi un projet commun qui réunit tous les niveaux sur un même thème. Donc si je prends le thème de l'année dernière, c'était autour de... Oh, j'ai un trou. Xavier, tu te souviens?
L'an dernier, tu avais fait la thématique du cochon.
C'était sur les trois petits cochons. Comment décliner donc, un conte traditionnel dans les différents niveaux, et ça se termine par une exposition où le but c'est de montrer aux parents la richesse déjà d'un conte traditionnel basique et aussi le travail d'équipe. Donc par exemple chez les tout petits, elle avait travaillé l'histoire en faisant une fresque reconstituant l'histoire des trois petits cochons. Moi dans ma classe, on avait réécrit l'histoire en symbolisant les personnages. Donc tout un processus de symbolisation, donc tout ça pour amener inconscient. Enfin, les élèves sont pas vraiment conscients, mais pour les amener petit à petit vers la lecture. Une classe de moyen-grand avait réécrit une histoire. Donc c'était plus les trois petits cochons, mais c'était les trois petits loups. Hein, en retransposant la trame de l'histoire. Et la dernière classe, c'était un conte détourné. Non, c'était une suite. C'était une suite des trois petits cochons. Hein, elles se complétaient, les deux classes. Donc ça peut être un projet mené sur une école. Et là, à la rentrée, je vais proposer donc à l'élémentaire et à la maternelle de faire des allers-retours entre la primaire et la maternelle sur la compréhension de l'écrit, avec une correspondance pour voir l'utilité de l'écrit. Mais ça, c'est en projet. Hein.
Donc ce sera un projet qui concernerait les 9 classes, quoi, voilà. Les maternelles.
Donc demander à l'élémentaire d'écrire un courrier, donc aux maternelles, et pousser les maternelles à répondre et pour voir qu'un écrit, c'est porteur de messages, ça reste, ce qu'ils disent, ça doit être compris et inversement. Enfin, c'est un petit peu flou ce que je dis, mais
non, voilà.
Après, comme tout projet, on a des idées. On prend la température dans les classes et des fois les élèves nous amènent sur un autre terrain. Et donc des fois le projet initial, le projet final, il est carrément en décalage.
C'est la notion de projet aussi. Hein.
Voilà.
On projetait et finalement on arrive ailleurs.
Donc le rôle aussi de l'enseignant, c'est de savoir s'adapter à ces revirements et des fois le projet, ça prend pas du tout, quoi. Les enfants ne sont pas du tout intéressés et là. Il faut accepter de dire stop, même si j'ai préparé 2-3 mois de travail, stop, on change.
J'avais envie de poser une question en faisant un pas de côté, c'est d'accord sur le fait que les enfants soient partie prenante ou pas, mais les enseignants aussi, c'est quand même eux qui portent le projet.
Oui,
dans une équipe de 9, on n'est pas tous obligés d'être moteurs de la même manière.
Voilà, c'est là tout l'enjeu. Hein. Donc bon, la maternelle, je sais que c'est un public conquis. On a tous le même état d'esprit, on regarde tous dans la même direction. L'élémentaire, je vais voir. Après, sur les 5, s'il y en a 3 qui adhèrent, les 2 autres... ils vont suivre. Et puis, c'est aussi à moi de démontrer la plus-value d'un tel travail.
Puis tu disais, pour être optimiste, hein, tu disais que déjà, quelques jours avant la rentrée des classes, tu as déjà vu la plupart des enseignants qui étaient là, donc on peut être optimiste quand même.
Oui, et En plus, je dirais leurs élèves, nous les connaissons tous. On les a tous eus avant en maternelle. Donc, on peut les aider aussi dans l'approche de ces élèves. Et on sait ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Et puis, bon, je vais aussi les convaincre sur le fait que la compréhension de l'écrit... ça devient un enjeu parce que bon, moi mon conjoint est enseignant dans le secondaire et j'ai aussi une grande amie qui est prof de français en 6e et on se retrouve à chaque été et à chaque fois elle me dit mais qu'est-ce que vous faites dans le primaire, ils comprennent pas, ils savent pas lire et ceci et cela. Et bon, c'est facile de dire bah c'est pas moi, c'est ceux d'en dessous. Donc il faut accepter de se remettre en question. Hein, et je me dis que si les élèves ne comprennent pas, il y a peut-être quelque chose à faire, changer les méthodes et voir là où ça pêche. Et voilà.
Xavier, quand on écoute Claire, on est complètement enthousiasmé par les projets que Claire présente. Oui. C'est comme ça dans toutes les écoles, c'est...
Ah oui, la plupart des écoles ont cette envie d'être pour un... Ben, ce qui est notre priorité, c'est la réussite des élèves, hein, c'est les apprentissages. Et c'est vrai que c'est tout un cheminement des équipes. C'est là où la finesse des directeurs qui sont des pilotes, même s'ils restent les collègues des professeurs des écoles, hein, ils ne sont pas supérieurs hiérarchiques. C'est d'emmener leur équipe sur la plus-value à changer certaines pratiques, réfléchir sur les supports, ce qu'on propose aux élèves. Et justement, là, mon rôle, c'est d'accompagner les équipes qui me sollicitent. Hein. Ça a été le cas de l'équipe de Claire, en partie, sur tout ce qui était l'entrée dans l'écrit, sur l'autonomie, et voir que finalement, la plus-value permet des situations qu'ils vont proposer, même si parfois c'est un peu lent à se mettre en place, permet d'aller beaucoup plus loin et ça y est, après on est convaincu et ça fait presque tache d'huile, enfin c'est pas très beau comme expression, mais d'un seul coup c'est, voilà, ça va sur les autres classes qui voient un intérêt et je crois que c'est ce qui va se passer un petit peu pour le reste de ton équipe, c'est qu'ils vont voir la motivation des... Hein, parce que c'est donner du sens aux apprentissages, hein, on a des élèves devant nous qui sont très sollicités par des choses... un environnement très bougeant, très remuant, qui est très qui focalise sur des choses qui sont pas toujours en accord avec les priorités de l'école. Donc, il faut amener justement une sorte de motivation intrinsèque chez les élèves. Et ce genre de projet où le sens des apprentissages prend tout son sens, c'est vraiment là où on est gagnant. Donc, ça demande de réfléchir, de les mettre en place, de faire avec l'élève. L'élève a son mot à dire. Hein, c'est-à-dire qu'on n'impose pas obligatoirement, on a des idées, on voit avec eux sont force de proposition, comme tu le disais tout à l'heure, et ça fait bifurquer. Donc c'est une façon de voir le métier en adéquation avec une société qui, bien évidemment, a évolué.
Alors justement, bah, tu évoques peut-être des thématiques en termes d'enjeux, tu parles de la réussite des élèves, tu parles du sens des apprentissages, hein, tu parles d'une société qui bouge, qui évolue. Quelles sont les grandes lignes de force qui caractérisent l'école, ses objectifs, ses finalités dans la société d'aujourd'hui, en août-septembre 2017
Parce que tout enseignant qui a un élève en école en âge d'école de scolarité obligatoire, hein, vraiment l'idée c'est de faire qu'il soit en réussite pour faire un citoyen équilibré à sa sortie de cette scolarité obligatoire. Donc toutes les petites choses, toutes les petites pièces du puzzle au quotidien, elles doivent permettre justement cette autonomie intellectuelle, cette autonomie dans ses choix de futur adulte. Donc c'est ça ce qu'on vise. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de compétences des élèves. Hein. On était à une époque sur une école qui était un peu plus apprentissage de notions, hein, des contenus. Or, ces contenus, désormais, on les trouve partout. Donc, c'est plus complexe, semble-t-il, d'apprendre à trouver l'information, à la faire sienne, c'est-à-dire développer des compétences pour être un peu plus autonome dans tous ces domaines, hein, et d'autant plus avec une société où les choses vont vite, les choses bougent beaucoup, donc il faut des bases solides. Donc on a depuis 2006 le socle, hein, bon, qui a changé entre-temps, mais l'idée c'est que l'élève sorte à la fin de la scolarité obligatoire avec l'incontournable qu'il doit savoir pour entrer dans sa future vie d'adulte, bien évidemment en souhaitant qu'il fera des études par la suite.
Hein. Alors, tu peux détailler cette histoire de socle de compétences
Oui,
peut-être préciser.
Alors, socle commun de compétences.
Pas forcément de façon détaillée.
Voilà, donc c'est le socle commun, puis pour faire court, hein, c'est des grands champs, on va dire, de compétences, d'attitude autour de domaines qui vont permettre, par exemple, autour du langage, autour de l'information, qui vont être des grands thèmes qu'on va retrouver dans la société, qui sont aussi des domaines disciplinaires, déclinés en domaines disciplinaires, c'est-à-dire que les derniers programmes, hein, que la maternelle, puis ensuite l'élémentaire et le collège, en fait, ils sont en adéquation avec ce socle, et tout ce qu'on va apprendre en classe, toutes les compétences, vont rentrer dans ces domaines pour que l'élève soit en réussite quand il sera un adulte.
Mais quand tu parles d'attitude, de compétences en matière d'attitude...
Oui, par exemple, le regard critique, savoir critiquer, apprendre très tôt à questionner une information, qui l'a dite, de quelle façon, quelle est la source. Donc ce sont des choses qu'on commence assez rapidement. Alors, peut-être pas en maternelle, mais les thématiques qu'on aborde, c'est déjà un petit peu... se questionner, mettre les élèves non plus à recevoir une information, mais à la rechercher. Hein, par exemple, tout ce que tu donnais comme élément par rapport à ne serait-ce que rentrer dans la symbolisation, les trois petits cochons, c'est quel choix je vais mettre pour mettre derrière. Donc montrer que je suis acteur quand je fais le dessin du symbole du cochon, ben, quand je reçois une information un peu plus tard, c'est ça, il y a quelqu'un qui l'a produit, il a choisi, c'est pas anodin, il y a une volonté humaine derrière. C'est tout ce travail qui va faire qu'en fait, on va rentrer dans le parcours citoyen. Donc on a des grands parcours à l'école, hein, qui commencent dès la maternelle et qui vont jusqu'au niveau du lycée. Ce sont des parcours dans lesquels, en fait, on essaie d'impliquer l'élève, qui devienne acteur un peu de toutes ces choses qu'il va recevoir dans l'école, mais surtout qu'il va vivre aussi dans son quotidien d'enfant. Donc, par exemple, le parcours d'EMC, qui ne concerne pas encore la maternelle, hein, c'est montrer comment à la maison je regarde la télé, comment j'ai un regard critique par rapport à ce qu'on va faire en classe, l'EMC, éducation morale et civique. Hein, c'est-à-dire que toutes ces choses que je vis à la maison, que je vis en classe, que je vis dans les débats visés philosophiques, par exemple, c'est des choses assez pointues, hein, quand même, qu'on voit en maternelle. Hein. On fait de la philosophie dans certaines classes de maternelle. Alors, c'est pas vraiment de la philosophie, mais on questionne des grandes questions. Et toutes ces choses-là, c'est faire en sorte de gagner en autonomie intellectuelle. C'est ce qu'on vise, avant tout. Hein.
Et je pose la question à tous les deux. Bon, moi, évidemment, je ne suis pas enseignant, donc je ne suis pas très bien placé pour parler, mais ça nécessite quand même, de la part de l'enseignant, un certain nombre de compétences, pour le coup.
Oui, ça demande des compétences et ça demande aussi... les enseignants ont aussi tout un ensemble de compétences qui sont listées. Hein. On a des compétences, hein, des professeurs, qui sont communes justement aux professeurs des écoles et professeurs de lycée, de collège et de lycée. Hein. Donc on a les mêmes compétences, on est vraiment professeur, on a des compétences à suivre, et dans ces compétences-là, il y a se former. Alors c'est pas se former innover, elles ont changé, c'est plus la nouvelle, mais c'est l'idée d'être pendant toute la longueur de sa profession, d'être toujours en train de revoir sa pratique, d'être un enseignant réflexif, d'évaluer son travail, en même temps qu'on évalue le travail des élèves, de voir un petit peu si je suis en accord avec les dernières données scientifiques, par exemple de la lecture. On a fait un gros travail avec l'école de Claire sur l'entrée dans l'écrit. Je sais pas, tu peux peut-être rapidement montrer en quoi vous avez changé votre pratique, par exemple.
Oui, en fait, en plus, ce qui a été intéressant, c'est que Xavier était venu me filmer 3-4 ans auparavant dans un autre cadre, mais bon. Et puis là, on ouvre la partie sur un autre projet dans l'entrée dans l'écrit et il m'a filmé de nouveau. Et c'est vrai que je me suis vue évoluer dans mes gestes professionnels. Et j'ai été aussi curieuse. Donc, c'est des lectures, c'est avoir une certaine vigilance pédagogique, on va dire, dans les nouveautés. Et donc là, si je peux relater l'entrée dans l'écrit, hein, ce que j'avais fait chez les petits, chez les petits moyens, c'était sur un acte qui leur était familier, hein, la vaisselle. Hein, parce qu'en maternelle, il est essentiel de partir de leur vécu, de ce qu'ils connaissent. Ça sert à rien de leur parler de l'Afrique s'ils ont jamais vu l'Afrique, s'ils savent pas à quoi ça ressemble un éléphant, un tigre.
Par contre, la vaisselle, ça leur parle.
La vaisselle, ça leur parlait. Donc, ouvre la partie.
Ils voient souvent papa faire la vaisselle à la maison.
Non, en gros, c'était ça. Ou alors, oui, en gros, c'était ça. C'est maman qui fait. Et, mm-hmm. Ou alors, on appuie sur le bouton. Donc en fait je les avais mis en situation, mais donc une bassine, le liquide vaisselle, l'éponge, le tablier, et nous voilà en train de faire la vaisselle. Donc avec donc derrière l'objectif de leur faire leur apporter du vocabulaire, hein, au niveau de donc casserole, assiette, hein, donc c'est les petits. Essorer, rincer, laver, mousser. Alors, il a découvert comment faisait la mousse, quoi. C'était magique. Enfin, de les voir évoluer comme ça, ça a été, c'est vrai, magique. Et j'avais mélangé des enfants dits fragiles avec des enfants pas du tout fragiles, mais en réussite. Et donc ensuite. Une fois qu'ils ont vécu la vaisselle, hein, de A à Z jusqu'au rangement, on a fait un écrit. Ils devaient me dire, dicté à l'adulte, comment on faisait la vaisselle, les différentes étapes. Donc moi j'ai écrit et cette lettre on l'a portée au moyen grand. Et les moyens grands, en relisant ce que les petits moyens avaient écrit, ils devaient refaire la vaisselle. Alors évidemment, il y avait des erreurs. Et les petits, ben non, c'est pas comme ça. Oui, mais on a écrit ça. Donc là, ils ont vu que déjà l'écrit, ça restait, et l'utilité du message écrit. Hein, ils se sont rendus compte que ben, si on avait oublié un mot, ben, ça changeait la donnée du message ou les étapes qui n'étaient pas mises dans l'ordre. Mais bon, on l'avait écrit.
Donc, voilà. Et c'est là où justement la difficulté de notre travail, c'est se dire, éventuellement, dire, bah oui, ils ont fait la vaisselle. Et alors, non, d'un seul coup, c'est je fais la vaisselle parce que j'ai une idée pédagogique, didactique derrière, c'est de se dire... On va faire en sorte que cet écrit, il ait une véritable fonction, ça ait du sens. Et en fait, ce long travail, parce que ce sont des choses qui prennent du temps, ces allers-retours font que d'un seul coup, c'est l'élève lui-même qui va se rendre compte qu'il y a une lacune, qui manque un mot, ce n'est pas dans le bon sens. Alors qu'on pense qu'il suffirait de dire aux élèves, bah, vous avez oublié des choses, ou la vaisselle, ça se fait comme ça. Non, c'est vraiment, c'est ça la difficulté de notre métier actuellement. C'est l'élève par lui-même qui va apprendre et qui va apprendre... en se rendant compte de ce qui lui pose un problème. Donc c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos, hein. Ce retour d'un seul coup, c'est « Ah, il me manque des choses ». C'est vrai qu'on aurait pu gagner du temps en disant bah, « Il manque des choses dans votre... » Mais c'est ce long travail. Alors, pour en venir sur ta démarche, c'est que tu t'es rendu compte, en faisant et presque après coup, qu'en effet, le jeu envahit la chandelle, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui.
Et que d'un seul coup... ce qu'elle avait découvert là, elle pouvait le décliner dans d'autres domaines. Il faut laisser du temps, et c'est les élèves quelque part. Parfois, c'est ça la difficulté actuelle du changement, c'est que c'est l'enseignant qui doit se dire, dans ma pratique, je dois faire en sorte que l'élève y soit acteur de ses apprentissages, il fasse, que je les aide, que certains je les aide un peu moins.
Oui, et puis, bon, même faire tous les ans la même chose, c'est pas non plus très motivant. Donc, chez moi, il y a aussi cette quête de... pas d'innover, ça serait prétentieux, mais de me renouveler pour pas avoir l'impression de rembobiner la cassette à chaque entraide, quoi. Et puis, c'est aussi, faut pas hésiter à essayer. À essayer des choses. Bon, là, je me connais, c'est grâce à Xavier et aussi au nouveau programme de l'école maternelle. Hein.
T'es pas obligé de le dire s'il est là. Hein, tu sais.
Non, mais c'est vrai. C'est, on nous autorise maintenant à essayer des situations. Et puis, alors, le jour où il y a eu la vaisselle, oui, il y avait de l'eau partout. Ben, ça, mais c'est pas grave.
Oser, laisser du temps. Laisser du temps, le rythme de l'enfant.
Oui, voilà, c'est pas une perte de temps. Et...
les choses viendront à point nommé. C'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé en circonscription. Et c'est là où ma part de formateur, donc je forme également les enseignants de toute la circonscription, il y a un moment, sur des groupes plus ou moins grands, je travaille, donc il y a un plan d'animation qu'on prévoit en juin. Donc là, on en a rediscuté aujourd'hui. Donc... dès les 15 premiers jours qui vont arriver, on va avoir sur toute l'année tout un ensemble de propositions de formation pour nos enseignants de la circonscription sur des thématiques qu'on aura choisies prioritaires, c'est-à-dire voilà, ou par rapport aux expériences qui se sont faites. Donc moi, c'est là où j'articule un peu ce que je vois dans les classes, les attentes ministérielles aussi, hein, les priorités nationales, priorités académiques, et c'est toute cette articulation qui font que ça ne peut être qu'affecté à un territoire, une circonscription. Ce que je fais ici sera peut-être un peu moins valable dans une autre circonscription. Ce n'est pas les mêmes attentes, les mêmes besoins.
Mmh. Mais alors, j'avais envie de réagir à l'échange que vous venez d'avoir tous les deux, parce que quand je reprends l'exemple de la vaisselle qu'évoque Claire, avec, si j'ai bien entendu ce que tu as dit, Claire, ça t'a permis à un moment donné de préciser un nombre... de concepts, de savoir, tu as parlé de mousse, de rincer, d'essorer, de ce qui me semble tout à fait intéressant, positif. Enfin, c'est, je veux dire,
oui, c'est
dans mon esprit, c'est, on est vraiment là dans le rôle de l'école, quoi, de structurer un certain nombre de savoirs. De
voilà, on doit donc chez les petits, hein, c'est surtout le langage oral, hein, qui est visé. On doit leur apporter des bagages de mots. Alors, il y a un coin cuisine, mais c'est plus parlant pour eux de faire la vaisselle et en même temps d'apprendre les mots casserole, assiette, que d'être dans le coin cuisine en disant « qu'est-ce que c'est ça ?» Et puis ça, c'est quoi ? Donc, c'est une manière... Et après, bon, on réinvestit, on va ranger la vaisselle dans le coin cuisine et de là, on rebondit... sur mettre la table avec les couleurs. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose qui m'a fait un peu aussi changer mes pratiques, c'est que dans les nouveaux programmes, c'est le retour au jeu. Hein, et on nous conseille d'aller jouer avec les enfants. Donc, je me retrouve dans le coin cuisine avec mon petit groupe d'élèves et puis je leur dis, bah, aujourd'hui, on va jouer à faire à manger. Et puis, donc je leur dis, bah, faites-moi manger. Et puis là, pas de réponse. Bah, à la maison, on met une boîte, on met dans le four, on appuie sur le bouton, et voilà, on a fait à manger. Donc c'était carrément à milieu de leur quotidien. Parce que chez eux, peut-être que leur maman, ou leur papa, hein, pour X raisons, ne cuisine pas. Donc ils n'avaient pas cette notion de mettre la casserole sur le gaz, faire rissoler ou faire cuire des pâtes ou je ne sais quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que il fallait vraiment aller au plus près de leur quotidien.
Mais justement, c'est ce que disait Xavier, hein, l'élève est au cœur, on s'appuie vraiment sur le rythme de l'élève, de l'enfant. Est-ce que c'est une question qui, moi, me pose un petit problème. Est-ce que s'arrêter au fait de mettre l'élève au cœur, de suivre son rythme, c'est pas aussi s'appuyer sur les inégalités qu'il y a entre des élèves? Autrement dit, ben, je prends l'exemple que tu viens d'évoquer, Claire. Chez d'autres enfants, dans d'autres quartiers, on aurait eu un autre vécu qu'on pourrait estimer plus riche, avec déjà le fait que... les parents épluchent des légumes qu'ils vont acheter chez le maraîcher. Alors que là, non, on prend la boîte de conserve. Autrement dit, est-ce que le fait de mettre en avant l'élève au cœur et suivre son rythme, c'est pas d'une certaine manière se contenter, je mets plein de guillemets, hein, se contenter de suivre un rythme qui est peut-être différent chez des enfants en fonction de critères sociaux.
C'est tout l'enjeu de la différenciation. Donc, c'est jouer avec les groupes. Donc, à un moment donné, on va prendre, suivant les situations, peut-être des groupes hétérogènes au niveau du niveau scolaire. Donc, mettre des plus fragiles avec des élèves en réussite. Pour que les élèves fragiles aient quelques. Pas un modèle, mais.
Bénéficient des connaissances de voilà, ceux qui ont vu ça à la maison, donc par échange.
Voir un peu ce que j'attends d'eux, quelque
part. Par mimétisme aussi.
Oui, voilà, par. C'est ce qui s'est produit, hein, par mimétisme. Imitation. Et après, de revenir avec des groupes, on va dire, homogènes. Bon, ça me gêne de dire des groupes de niveau, mais si je prends au niveau du langage oral, on va pas, on va éviter de mettre des petits parleurs avec des grands parleurs, parce que les grands parleurs, ils vont toujours monopoliser la parole du groupe, et puis les petits parleurs, ils vont rester petits parleurs. Mais les avoir mélangés avant, les petits parleurs, ils vont dire, ah bah, ça va les mettre en confiance, ils vont se dire, bah, ah oui, bah, c'est ça qu'elle veut, donc... Je vais essayer de copier dans un premier temps. Et puis après, ils vont prendre de l'assurance, et puis parler d'eux-mêmes tout seul. Mais bah, j'ai lu pas mal de livres là-dessus, parce que ça m'intéresse d'une part. Et je suis convaincue qu'il faut toujours... privilégier les enfants les plus fragiles.
Les enfants prioritaires, les élèves
voilà,
prioritaires.
Voilà, il faut reprendre l'expression de Mme Brigodio. Et de toute façon...
Qui est, madame ?
Qui est une ancienne inspectrice, qui est chercheuse.
Oui, elle est chercheuse. Elle a fait beaucoup de livres sur le langage oral et écrit. Elle a fait partie de PROG. Alors PROG, j'ai jamais su ce que ça voulait dire.
Un programme qui s'est fait dans le passé. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que c'est l'éducabilité. Ça, c'est un grand mot. C'est l'idée que tout au long de sa vie, on peut accéder à toute éducation. Il faudra plus ou moins de temps pour certains, suivant le milieu, les capacités. Mais c'est possible. C'est ça, le pari. Et justement, l'idée de partir de là où on est l'élève, mais l'idée, c'est de faire progresser et de lui dire, regarde, tu as commencé à faire ce petit saut qualitatif. Voilà, et continue. Et nous, notre gros travail, c'est de l'encourager à point nommé. Et on a des super moments dans les vidéos, hein, où d'un seul coup, voilà. Ce qui pourrait passer pour anodin est vraiment un saut qualitatif d'un seul coup. Et l'idée, l'élève dans lequel éventuellement le milieu n'est pas suffisamment porteur, on n'a pas cette habitude, c'est dire bravo, regarde, tu viens de faire quelque chose. Et prendre cette habitude de se surpasser. Et en fait, il y a cet automatisme qui va s'incrémenter, qui va prendre une puissance, et il va être présent pour être attentif à recevoir des nouvelles choses qui vont être de plus en plus complexes. Et en fait, c'est ça tout le travail de la différenciation. C'est prioriser ces élèves-là, voir où ils en sont, et finalement de les rapprocher le plus possible des élèves qui ont éventuellement une situation culturelle ou personnelle ou familiale, qui eux ont déjà tous ces bagages qui virevoltent au-dessus de leur tête, en fait.
Oui, et puis l'interaction entre ces deux types d'élèves, c'est que l'enfant en réussite, voyant son camarade en difficulté, il va être amené à lui expliquer, et oui. Donc lui, il sera à un niveau au-dessus. Donc quelque part, tout le monde s'y retrouve.
C'est la solidarité, c'est donc, la fraternité.
Voilà, l'autre doit aussi se faire comprendre. Peut-être qu'il ne comprend pas parce que l'élève en réussite, il explique mal, quelque part. Donc oui, il doit s'adapter.
L'élève qui voilà. sait éventuellement ne sait pas trop comment il sait la chose. Et se voir être en train d'expliquer à un élève qui ne comprend pas tout de suite, ça va le réconforter, enfin le réappuyer sur finalement je dois être plus clair que ça quand je dois expliquer ce que je sais. Donc ça le fait un peu sortir et d'un seul coup il sait un peu exprimer et il connaît la procédure. Et l'autre élève en difficulté ou celui qui est encore un peu fragile, il a un modèle qui vient d'un camarade. C'est pas la parole de l'enseignant non plus. C'est avec des mots d'un camarade. Donc, et ça, c'est mélange, cette hétérogénéité, c'est très puissant. Hein.
Oui, et puis bon, à d'autres moments, les élèves en réussite on les prend aussi en groupe homogène. Et puis, ils sont aussi, ils ne sont pas mis sur le côté non plus. Hein.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que... moi, je trouve ça très chouette parce que ça, c'est un petit peu aussi en décalage par rapport à la vie en société, où, à la vie en société où, où aujourd'hui, c'est la compétition de tous contre tous, finalement. Hein. Enfin, dans le monde du travail, majoritairement, c'est ça. Et les pratiques que vous décrivez tous les deux, c'est un petit peu à rebours de ça. Et ça me semble très intéressant. Mais justement, est-ce que il n'y a pas des problèmes avec des familles qui souhaiteraient que leurs enfants aillent plus loin, ne se soucient pas de ceux qui ont le plus de difficultés, enfin, est-ce qu'il n'y a pas ce type de retour aussi de la part des familles?
Il y a des attentes de la part des familles.
Oui, alors bon, nous, dans notre quartier, on a vraiment les deux extrêmes. Ce qui arrive, les familles, on va dire, plus aisées ou plus favorisées, ce qui les fait fuir, c'est plus les problèmes de comportement et d'agressivité entre les enfants. Je ne vais pas dire violence, parce que c'est trop fort comme mot, mais d'agressivité. Donc bien souvent, bon, en maternelle, bon, comme son nom l'indique, hein, on est assez maternant, donc on arrive plus facilement à gérer ces conflits. Mais quand les enfants arrivent en élémentaire, les parents sont quand même en peur. Quand l'enfant revient avec des bleus ou dit des gros mots qu'il ne disait pas. Et c'est surtout ça qu'on nous reproche à l'école et les retire pour les mettre à l'école privée.
Pour autant, tout le travail, la gageure des enseignants, c'est d'arriver à montrer que cette mixité, c'est ce qui va faire tenir la future société. C'est ça, en fait. C'est l'enrichissement. De toute façon, la société, elle sera pas... elle sera mélangée comme ça. La violence, elle sera éventuellement certaine. Donc, c'est d'apprendre aussi à ces élèves-là de se dire comment tu peux te comporter. Apprendre déjà à te comporter parce que ces phénomènes-là, tu vas les rencontrer partout. Comment tu pourrais faire, toi, pour peut-être changer les choses? Et c'est vrai que je vois des choses, parce que je suis allé aussi en élémentaire dans certaines de ce qui sera tes classes. J'ai vu justement c'est des élèves qui ont des comportements vraiment assez coriaces déjà, et d'autres élèves qui arrivent à discuter avec eux, à leur proposer, à donner des solutions pour se calmer un peu. Et c'est là où on se dit qu'on gagne. C'est pour ça qu'il faut que ça continue. Alors, moi, je dis chapeau aux collègues qui arrivent à faire des choses qui sortent vraiment, qui sont extraordinaires. Hein. On a des classes qui sont parfois très compliquées. On avait une situation de remplacement l'an dernier. Oui. Bon, c'était plus la maîtresse qui était là, elle est revenue. Et j'ai vu certains élèves qui, finalement... finissaient par écouter les camarades, ils commençaient à s'installer, se mettre au travail. Voilà. Et tout ça, c'était parce que l'enseignant a mis en place une situation pour que ça se calme avec l'aide de toute la classe. Qu'est-ce que fait la classe pour cet élève-là? Et ça, ça va faire... c'est apprendre aussi un futur tissu qui tiendra, qui sera fait d'une sorte de...
Moi, j'ai l'impression que depuis quelques années, les parents ont plus peur de l'agressivité et de la violence que du programme scolaire. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, que ce soit là où je travaille et à l'école de mes propres enfants. C'est surtout ça qui fait peur.
Peut-être qu'ils sont...
Alors, il y a une première étape à l'école élémentaire et c'est flagrant, c'est à l'entrée en sixième.
Et ça, comment tu
les problèmes de racket, de harcèlement, ouais. La peur, je pense que c'est peut-être dans l'air du temps aussi, l'intolérance, les stéréotypes, la stigmatisation d'une certaine population, que ce soit bon, étrangère ou non, hein, mais voilà, l'insulte à la mode, c'est Cassos par exemple. Donc.
C'est aussi une vieille insulte, j'ai l'impression.
Ah bon, ben, moi, je ne suis pas de la région, hein, mais moi, de là où je viens, non, ce n'est pas l'insulte suprême. Mais je trouve que, voilà, l'entrée au collège, les parents, c'est ça. C'est pas de savoir si le collège a des bons résultats, ou c'est est-ce qu'il y a du harcèlement, est-ce qu'il y a de la violence, est-ce que... Et bon...
Ce, Ce qui pose aussi une double question, c'est cette question de la violence et du harcèlement d'un côté, mais aussi la question de qu'est-ce qui fait que des familles ne sont pas intriguées au moins par ce qu'apprennent leurs gamins à l'école, quoi. Ça interroge quand même.
Oui, ça interroge. Là aussi, c'est un de mes challenges depuis plusieurs années, c'est l'implication des familles dans vraiment les apprentissages scolaires de leurs enfants. Bon, alors déjà, la maternelle, elle est un peu considérée comme une garderie, ou enfin, en tout cas pour une école. Donc, on a du mal à les mobiliser pour les réunions de parents, par exemple, où ils ne voient pas vraiment l'utilité. Alors, on multiplie les actions pour les faire rentrer. Chaque année, on touche un peu plus de familles dites prioritaires. Bon, c'est toujours gagné. Une de plus, c'est toujours...
C'est cette idée aussi d'ouvrir l'école, pour montrer un petit peu cette boîte noire, hein, qui est quand même quelque chose qui est resté fermé pendant pas mal de temps. D'un seul coup, c'est ouvrir et montrer un petit peu la complexité du travail en maternelle, par exemple. Montrer que si je fais la vaisselle, c'est pas un moment d'amusement, même si c'est un jeu à la base. Mais inviter les parents à venir s'asseoir dans la classe, observer des moments un petit peu dédiés sur des semaines, et que ce soit en maternelle, en alimentaire aussi, en CP par exemple, et de discuter un petit peu, qu'est-ce que vous en avez observé, vous avez vu la complexité, et ça c'est tout un travail qui est en train de se mettre en place depuis quelques années, de faire en sorte que les parents peuvent voir un petit peu ce qui se passe. Moi, dans mon expérience professionnelle, quand on avait encore la classe le samedi matin, je proposais aux parents de venir s'installer dans ma classe pour voir un petit peu comment ça se passait et d'en discuter de façon informelle et de voir un peu, et ça se fait, hein. On a des collègues sur Liévin qui en début de CP par exemple, ou même toute une école, ils banalisent toute une semaine et on ouvre et les parents viennent voir, ils s'inscrivent, ils viennent voir un petit peu et puis ils discutent et puis ils sont étonnés de... Et par rapport au climat scolaire, puisque c'est un petit peu cette question-là, ils se rendent compte qu'il y a tout un fantasme autour de ça. Et parfois, les adultes voient les choses bien pires que ça ne l'est. Les élèves ne voient aucun souci. Il n'y a pas la même lecture hein, quand on fait une enquête climat scolaire, les collègues qui le demandent. Eh bien, ils sont étonnés de noircir un peu trop le tableau, et les élèves, pas du tout. Ils se sentent en sécurité.
Très bien, mais écoutez, Claire et Xavier, ça fait une heure qu'on échange, hein, le temps passe très vite et puis je pense qu'on pourrait encore aborder de nombreux autres sujets. Moi j'ai trouvé cet échange très, très riche, hein, très concret surtout, c'était vraiment tout à fait intéressant. Je ne sais pas si vous avez envie de profiter de quelques dernières secondes pour ajouter quelque chose, Claire ou Xavier.
Alors, quelle parole libre.
Claire réfléchit, là.
Oui, je réfléchis à un message qui pourrait amener de l'optimisme dans l'école. Je pense
moi, je dirais qu'on est une circonscription, mais je sais qu'on est beaucoup de circonscriptions, en tout cas des endroits où j'ai pu aller dans le département où ça travaille vraiment beaucoup. Ça, faut le savoir. On est une région qui est reconnue pour tout le travail que font les enseignants. Des collègues qui viennent d'ailleurs nous disent parfois « mais vous travaillez dans des conditions un petit peu compliquées ». Nous, on s'en rend compte, mais pour autant, c'est notre quotidien. Et ça, c'est vraiment... Et moi, pour être arrivé à Liévin il y a 7 ans, j'ai vraiment découvert des mines de choses qui ne sont pas connues. Et quand je dis aux collègues « vous savez, c'est très bien ce que je fais ». « Oui, mais tu ne le dis pas ». Donc, il y a une sorte d'humilité que je respecte beaucoup, mais qui pourrait être... Enfin, des choses qui pourraient être partagées. Et c'est en train un petit peu de se mettre en place, parce qu'il se fait vraiment des choses assez spectaculaires avec les enfants, avec les familles. Voilà, moi, je suis très content de ce beau travail, en tout cas.
Oui, moi, mon message, ça serait plus envers les élèves. Alors, bon, c'est devenu un mot à la mode, hein, la bienveillance. Mais je pense que en respectant les élèves comme ils sont, avec leur bagage... on peut les faire avancer loin. Enfin, il faut pas un enfant en échec, c'est pas un enfant qui est fainéant, c'est pas un enfant qui ne veut pas apprendre. C'est peut-être qu'il y a Il y a un déclic qui ne se fait pas.
Il ne sait pas encore faire.
Il ne sait pas encore faire. Et le rôle de l'enseignant, c'est de trouver la faille qui fera que l'étincelle va s'allumer. Quoi. Et voilà, il n'y a pas d'enfant fainéant. Ça, c'est pas vrai. En tout cas, dans notre tranche d'âge. Après, je ne sais pas, mais...
Très bien, ben, merci à tous les deux. Merci Claire, merci Xavier. Et puis, je pense qu'à Micro-Rebelle, on refera d'autres émissions sur l'école, hein, sur tout ce qu'il peut y avoir derrière, sur cet optimisme que vous avez essayé d'insuffler ici dans cette émission. Merci à tous les deux, puis je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire.
Merci.
Ce micro-rebelle reportage se termine.
Retrouvez tous nos reportages sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr en podcast ou en téléchargement.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau Micro-Rebelle reportage.